La ville de Bayonne et le consistoire israélite ont invité le 14 mai 2025 Haïm Korsia, grand rabbin de France et membre de l'Institut Académie des sciences morales et politiques, à s'exprimer au grand salon de l'Hôtel de Ville de Bayonne lors d'une rencontre intitulée « Questions sociétales et défis contemporains entre lucidité et responsabilité, le regard d'un académicien ». Nous écoutons Haïm Korsia.
Bien, merci beaucoup, chère madame la présidente, madame l'adjointe. Et merci, cher monsieur le maire, de me recevoir ici. J'ai cru comprendre que ce n'était pas aussi facile et évident que d'habitude. Et je comprends même qu'il y a une forme de colère de gens qui auraient voulu rentrer ici et participer à cette réunion, apparemment. Mais qu'à cela ne tienne, vous pourrez leur raconter ce qui s'est dit. Qu'est-ce qu'on va essayer de dire ensemble ? On va essayer de dire ensemble qu'il y a une voie pour espérer ensemble, que c'est justement parce qu'on ne pense pas les uns comme les autres qu'on crée une société, et qu'il n'y a aucune raison d'être dans une sorte de faillite de l'espérance. Parce que s'il y a une faillite de l'espérance, il y a une faillite de la société. Et je vais essayer de vous le montrer, puisque le thème qu'on m'a proposé, c'est le regard d'un académicien. Et sans vouloir jouer le grand spécialiste des choses de l'académie, l'Institut de France, qui regroupe les cinq académies, l'Académie française, la plus ancienne, l'Académie des sciences, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des Beaux-Arts, et la dernière, la plus jeune, l'Académie des sciences morales et politiques, où j'ai eu l'immense honneur d'être. Ces cinq académies instituent une forme de diversité de la pensée, et à l'intérieur de chaque académie, vous avez une autre diversité de pensée. Dans l'Académie des sciences morales et politiques, vous avez une section législation, droit, une section économie, une section histoire-géo, une section morale et sociologie, une section générale, font une façon de dire c'est dans la diversité qu'on va s'enrichir. Mais la diversité implique de laisser parler les autres. Vous voyez, par exemple, faire boum avec une petite sirène, c'est mignon, ça peut faire plaisir aux uns aux autres, mais est-ce que ça fait avancer un dialogue ? Tout le principe de ce que je venais vous dire là, aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que notre société vit un moment particulier de son existence qui n'est pas un moment unique. On a déjà vécu des choses comme celle-là. Et moi, je le dis avec profondeur des textes de l'histoire, l'histoire de France qui a du recul maintenant. On a affronté des moments de doute, de questions, même de peur, d'angoisse, des moments difficiles. Et nous en sommes toujours sortis par la capacité à espérer. Je vais vous donner un seul exemple. Le Conseil national de la résistance ne s'est pas réuni quand tout allait bien. Le Conseil national de la résistance ne s'est pas réuni quand il n'y avait plus de problèmes, plus de soucis, plus de doutes, plus d'angoisse, plus de peur. Il s'est réuni rue Dufour à Paris, en plein milieu de la guerre. C'est en 1943 que ce Conseil national de la résistance ne fait pas uniquement une réflexion autour de comment se sortir des doutes et d'angoisse. Non, il rêve le futur. Quelle société voulons-nous bâtir ? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit capable de dire « Oui, la situation est compliquée, mais on va penser déjà la paix dans, en nous, entre nous, la paix dans notre société, la paix dans le monde. On va rêver. » Au fond, c'est ce que je viens essayer de vous dire. Nous avons des invariants d'humains, que moi, j'ai prétention de dire qu'on peut retrouver dans la Bible. Ces invariants, c'est oui, le doute, la peur, l'angoisse, le fait de ne pas savoir de quoi le lendemain sera fait. La Bible dit avec ces mots, c'est un verset du Deutéronome, le cinquième livre de la Bible, c'est le chapitre 28 et c'est le verset 67 qui dit « Le matin, tu te demanderas qui me donnera un soir et le soir, tu te demanderas qui me donnera un matin. » J'étais ce matin au lycée Cassin, pour retrouver les élèves, dont des élèves qui m'avaient fait l'honneur de m'accompagner dans un déplacement à Auschwitz. Et mes amis, notamment je pense à Élie Buzyn, qui m'accompagnait avant de décéder il y a 2 ans, Élie me disait toujours, chaque matin en se réveillant, on se demandait si on allait vivre jusqu'au soir. Et chaque soir en se couchant, on se demandait si on allait vivre jusqu'au lendemain matin. Et je lui disais, mais c'est incroyable, tu as retrouvé intuitivement un verset de la Bible. Il me disait, mais parce que notre vie ne valait plus rien. Et on ne savait pas si on allait durer. C'est-à-dire que l'angoisse absolue, c'est ne pas savoir ce qu'il y aura ce soir, ne pas savoir ce qu'il y aura demain. Voilà ce qu'est l'angoisse. Et aujourd'hui, notre société, j'ai le sentiment qu'elle est dans un état de mélancolie, comme aurait dit Gérard de Nerval. Gérard de Nerval a pensé ce concept de spleen, de mélancolie. Il dit, la mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la mélancolie, c'est voir les choses, faire une analyse, le Boston Consulting Group appellerait ça un SWOT, vous analysez les forces, les faiblesses d'une situation, les menaces, les opportunités, et vous dites, voilà ce que sera l'avenir, voilà ce que sera le futur, voilà les données objectives, et voilà ce qu'on aura. Vous voulez que je vous dise ? C'est ce que font les sondages. Les sondages font un état de la situation, ils nous demandent ce qu'on pense, et ils nous disent, vous savez quoi ? Pas la peine de voter, puisqu'on a déjà, on sait déjà ce que vous allez voter avec les sondages. Mais vous pouvez remarquer que, grâce à Dieu, ou grâce à la liberté que chacun, chacune peut manifester, on ne vote pas en général exactement comme les sondages. Pourquoi ? Parce qu'on peut espérer différemment. Et c'est très intéressant, j'ai travaillé dans un institut de sondage. C'est exactement nervalien. En fait, quand on est sondé, on dit voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, compte tenu de ce qu'il y a, compte tenu de la situation, voilà ce que je vais voter. Mais au moment de voter, chacun et chacune d'entre nous se met brusquement à espérer. Et si par mon vote, je changeais la situation ? Et donc, on vote différemment qu'un vote de réaction. Un vote de réaction, c'est voilà les données, voilà ce que je vais faire. Un vote d'espérance, c'est voilà les données, voilà le monde que je pourrais construire. Ce qui explique parfois les deltas entre ce qu'annoncent les sondages et ce qu'on vit. Donc, si on est sur une logique de Nerval, la mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est, moi je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes, cher monsieur le maire, une société mélancolique. Une société qui dit, ça va mal, donc ça ne peut pas aller bien. Le futur, c'est catastrophique. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Moi, je suis sidéré, par exemple. J'ai rien contre les manifestations, vous pouvez le voir. Enfin, je suis des fois étonné que des gamins, des lycéens que j'ai vus ce matin, il n'y en avait pas. Mais disons, de l'âge des lycéens que j'ai vus ce matin, 16 ans, 17 ans, 18 ans, manifestent pour leur retraite. Ils n'ont pas commencé à cotiser et ils manifestent pour les retraites. Ça veut dire quoi ? Sérieusement, ça veut dire qu'on leur a déjà expliqué qu'ils sont cuits. Et qu'au moment de leur retraite, il n'y aura plus d'argent. Et donc, ils manifestent, mais sérieusement, avec une angoisse sérieuse. Je ne veux même pas rentrer dans le jeu de dire qu'ils sont instrumentalisés, ce que je pense aussi, mais peu importe. Le fait que des jeunes se mobilisent pour manifester pour leur retraite, moi, ça me fait de la peine. Parce que moi, je voudrais que les jeunes manifestent pour la liberté, pour, je sais pas moi, écouter des concerts de ce que vous voulez, faire la fête, avoir le droit d'aller dans les fêtes de Bayonne, monsieur le maire. Je sais pas quel âge ils peuvent y aller, mais... sans boire trop, évidemment. Bref, peuvent manifester pour des millions de trucs. Mais manifester pour les retraites, là, oui, il faut parler de mélancolie, et profonde. Et j'ai le sentiment que, c'est l'exemple que je prends parce qu'il est amusant, parce que je l'ai vu, mais parfois on manifeste, on s'inquiète pour des questions, des sujets qui ne nous impactent pas et qui n'auront qu'une possibilité d'exister. Simplement, ils contribuent à pérenniser l'état de peur. Le monde ne peut pas aller bien. Face à ça, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez quelque chose de magique qui s'appelle l'espérance. L'espérance est républicaine si vous avez une laïcité areligieuse, et l'espérance est spirituelle, religieuse, si vous avez une laïcité religieuse. À savoir que l'espérance, c'est pas l'optimisme, ne confondons pas. L'optimisme, c'est comme pour ceux qui connaissent ce film magnifique, La Haine, quand le héros, il y a un petit film récurrent dans le film. On le voit, un monsieur qui tombe d'un immeuble très haut, et à chaque étage, il dit « jusque-là, tout va bien ». Oui, c'est vrai, il faut être optimiste, jusque-là, tout va bien. Enfin, il y a bien un moment où ça ira un peu moins bien que prévu. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'optimisme, il est seul, il est béat, il ne change rien, il attend que tout vienne des autres, ou de l'extérieur, ou de qui vous voulez. Celui qui espère, il sait qu'il a quelque chose à transformer en lui. Ce qui a d'ailleurs surpris beaucoup quand j'ai intitulé un de mes livres sur l'espérance, comme l'espérance est violente. En fait, j'ai fait que reprendre un poème de Apollinaire, qui s'appelle Sous le pont Mirabeau, tout le monde le connaît, lente est l'attente, violente est l'espérance. Oui, j'ai le sentiment que l'espérance, c'est se faire violence. C'est pas tout attendre des autres, c'est accepter de bouger de sa position. C'est voir le monde tel qu'il est, mais ne pas être victime de la mélancolie, c'est-à-dire des décisions des autres, y compris des décisions des faits. C'est être capable de transformer les données du monde pour qu'elles donnent un autre résultat que ce qui était prévu. Et on est capable de le faire à titre individuel, et on est capable de le faire à titre collectif. Moi, je le sais parce que dans la Bible, on nous montre des situations où c'était fini, et au fond, les choses changent. Je vais vous raconter, mes chers amis, quelque chose qui... une rencontre qui m'a vraiment bouleversé, le mot est faible. J'étais dans une de mes visites à Auschwitz. Tous les ans, j'organise un pèlerinage. Donc parfois, on arrive en même temps qu'un autre groupe, et je vois un groupe accompagné d'un bonhomme incroyable qui s'appelait, et à son âme, Joe Vachblatt. Joe Vachblatt, c'est un homme, mais incroyable. Je vais vous raconter son histoire. Il a 16 ans, il est raflé dans un ghetto, il est envoyé à Auschwitz. Et comme il est rapide, furtif, j'allais dire, et intelligent, il se débrouille pour éviter les sélections dans le camp d'Auschwitz. C'est un moment, il raconte qu'il est pris dans la sélection, il va mourir. Il est emmené, il faut imaginer cette histoire qui a été corroborée par ses camarades. Il est donc raflé dans Auschwitz même, pour la sélection, et donc il est envoyé dans la chambre à gaz. C'est fini. La porte de la chambre à gaz se ferme. C'est fini. Vous êtes d'accord? D'après Nerval, c'est fini. La mélancolie, cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Et il me raconte que à ce moment-là, il dit, moi, je n'étais pas religieux, mais je me suis dit, quelque chose va se passer. La porte est fermée, c'est fini. Et brusquement, Joe Vachblatt me raconte, la porte s'ouvre. 40 personnes sortent, les portes se referment et égagent tous ceux qui sont dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a les SS d'Auschwitz, donc font une rafle interne, une sélection, comme ils appellent, et ils les envoient à la chambre à gaz pour les tuer. Là, Mengele passe et dit, qui a donné l'ordre de faire cette sélection? Personne ne sait. Et donc, Mengele, avec sa cravache, fouette le visage du SS et dit, ouvrez la porte, pour montrer que c'est lui le chef. Il fait ouvrir la porte, 40 en sortent, et là, une fois qu'il a montré que c'était le chef, il dit, bon, gazez tous les autres. Et de ces 40, 3 ont échappé à la mort, 3 ont survécu, et ces 3 ont témoigné. Voilà ce que je voulais vous dire. Regardez, si on voit les choses objectivement, ils n'avaient plus aucune chance de survie, aucune chance de survie. Mais quelque chose l'a animé, quelque chose s'est passé, une donnée du monde a changé, et quelque chose est arrivé. Ou on pourrait prendre la chose collectivement. La machine de guerre nazie se met en marche contre nous, contre les Juifs, mais contre nous, la France. Et la France est toujours là, et le peuple juif est toujours là. Croyez-moi, objectivement, si on analysait les faits, c'était impossible. Je peux même développer sur la pérennité du peuple juif. Est-ce que le peuple juif est plus grand, plus fort que les Mayas, que les Incas, que les Taïnos, que les Arawaks? Le fait est que les Taïnos, les Arawaks, les Incas, les Mayas, vous voulez les voir, vous allez où? Au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Là, il y a tout ce que vous voulez. Vous voulez voir les juifs, vous allez les voir dans toutes les synagogues du monde, toujours présents, toujours vivants. Apparemment, ça énerve certains, mais toujours vivant et toujours présent. Et c'est ça, cette sorte de capacité à ne jamais douter qu'un chemin va s'ouvrir. Prenons les choses plus simplement. Les Hébreux arrivent devant la mer Rouge, ils sortent d'Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge, c'est infranchissable, c'est clair. Là, en données nervaliennes, la mer est infranchissable. Derrière, les Égyptiens arrivent, 600 chars, raconte la Bible, c'est fini. Et d'ailleurs, certains vont considérer que c'est fini. Mais Moïse leur dit, n'ayez pas peur. C'est le verset 13 du chapitre 14 de l'Exode. N'ayez pas peur. Au fond, derrière le doute, la peur, l'angoisse, Moïse dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quoi? Les uns des autres. N'ayez pas peur de vous rassembler. N'ayez pas peur de vos différences. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Vous serez capable de construire quelque chose ensemble qui va vous faire transformer les données objectives du monde. Et c'est cette idée-là que la Bible dit, Deutéronome, c'est très joli d'ailleurs. Je l'ai cité ce matin, si vous lisez le Figaro, ça pourra juste me faire plaisir que vous lisiez mon article sur modeste réflexion autour de la fin de vie. J'ouvre une parenthèse. Le débat de la fin de vie, c'est Nerval contre l'espérance. La fin de vie, vous avez un patient devant vous. La question, aujourd'hui, hein, vous avez un patient devant vous. Les médecins vous disent, bon, dans 3 mois, il ne pourra plus vraiment bouger, les mains, machin. Dans 6 mois, il aura du mal à respirer. Dans 8 mois, il faudra décider trachéotomie ou pas trachéotomie. Voilà, et je vous parle de proches que j'ai pu accompagner dans ces situations. Donc, je ne parle pas en théorie. Et là, on vient vous dire, ben, plutôt que de vivre tout ça, puisque ça va se passer comme ça, autant arrêter tout de suite. Et vous savez, dans le premier sociologue français qui s'appelait Émile Durkheim, dans un livre de 1897 qui s'appelle Le Suicide, fait une typologie des suicides. Il y a 4 types de suicides. Le suicide altruiste, le suicide égoïste, le suicide anomique et le suicide fataliste. En 2 mots, suicide altruiste, c'est « je vais me sacrifier pour vous », voilà, je ne sers à rien, je suis un poids pour la société, voilà, c'est en gros les personnes âgées au Japon. Le suicide égoïste, vous ne me méritez pas, je suis trop bien pour vous, je vais mourir bien fait pour vous. C'est ce genre Alain Delon, vous ne me méritez pas, c'est pas suicidé, mais c'est à peu près ça, schématiquement. Suicide anomique, tout change tellement, en bien ou en mal, que je suis perdu, j'ai plus de base, j'ai plus de règles, je ne comprends plus ce monde, je préfère me suicider. Et suicide fataliste, la vie est tellement normée, je sais tellement ce qui va se passer, je sais où je serai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça ne sert à rien de vivre une vie que je connais tellement bien par avance, je la connais, pas la peine de la vivre. C'est ça le suicide fataliste. On est en train de créer une société du suicide fataliste. Tu sais ce que tu seras, pas la peine de le vivre. Mais comment on peut savoir ce qu'on sera? Comment on peut faire pour dire à quelqu'un, puisque un jour ça va être compliqué pour toi, on va le priver de tous les échanges avec ses proches. Moi j'ai vu, c'est ce que j'ai dit ce matin, j'ai vu des gens, notamment dans des services de soins palliatifs qui font un travail formidablissime d'humanité. Alors évidemment, à la T2A, enfin le maire comprend de quoi je parle, la T2A c'est la tarification à l'acte pour les hôpitaux, on ne sait pas comment tarifier le fait de prendre la main de quelqu'un et d'être avec lui. Je comprends, je préfère une bonne opération, on sait comment tarifier ça. Mais j'ai vu dans des lieux, notamment Jeanne Garnier à Paris, des lieux de soins d'accompagnement, où des gens qui ne s'étaient pas parlé depuis 20 ans arrivaient, se prenaient la main sans dire un mot. Je vous signe qu'ils se sont dit plus de choses que durant toute leur vie, juste en se prenant la main, en se regardant. Pourquoi priver les gens de ça? Maintenant, évidemment, je ne veux pas qu'on encourage un tant soit peu la souffrance. Et que par nature, si grâce à la loi Leonetti, Claes Leonetti, on est capable de proposer la sédation profonde, continue, irréversible, c'est-à-dire le fait d'endormir quelqu'un pour qu'il ne souffre plus et qu'il s'éteigne doucement, c'est-à-dire qu'on le rende à son humanité, donc à sa finitude, qu'est-ce qu'on a besoin d'une loi de plus qui entérine le fait qu'on va tuer des gens? Sans vous parler du drame auquel on ne pense pas, surtout, si vous voulez mon avis, qu'on occulte. Allez voir comment vont supporter le poids de ces décisions, le sentiment de culpabilité, les proches, les enfants, les conjoints qui vont toute leur vie vivre avec l'idée « c'est moi qui ai dit, allez-y, tuez-le ». Je ne sais pas comment une société va pouvoir faire pour vivre avec ce sentiment de culpabilité. Mais ce que je veux vous dire, c'est on est vraiment dans cette situation à tous les niveaux de notre société. Nervalien, c'est-à-dire voilà les données objectives, donc ça ne sert à rien de faire autre chose, c'est déjà fait. Et moi, j'instille là-dedans, je pense qu'il faut que les politiques le fassent, cher monsieur le maire. Et si vos administrés vous aiment plutôt bien, puisqu'ils vous réélisent régulièrement, bah c'est simplement parce que vous ne vous enfermez pas dans le réel, dans ce qu'il y a. Vous proposez des façons de voir les choses d'un peu plus loin. Vous anticipez, vous créez des possibles. Et moi, je crois qu'à tous les niveaux, l'État, j'en parlais avec le sous-préfet, le préfet, il n'est pas là, donc on peut en parler tranquille, il est formidable. Parce que pour un territoire donné, bah, il rencontre les autres, il comprend que l'État ne peut pas faire tout, mais l'État peut fédérer des forces et des façons de penser les choses ensemble. J'ai vu comment... Mais franchement, je vous le dis, d'abord je vous remercie tous, chacun et chacune, d'avoir eu le courage de braver même la peur, la crainte. Je remercie le maire d'avoir osé maintenir. C'était tellement simple de m'appeler Raïm. Viens dans deux semaines, écoute, il y aura un match, ça sera sympa, reviens plus tôt, là c'est un peu compliqué aujourd'hui. Je remercie l'État qui a mis les moyens policiers pour assurer notre sécurité à tous. Mais vous, le courage que vous avez eu de venir, de prendre des coups, pourquoi aller s'embêter, machin, on le reverra sur YouTube, c'est bien aussi. Mais c'est ça la mélancolie, c'est ne pas être capable de dire « mais je n'accepte pas que d'autres décident pour moi ». Et être capable de dire « moi, je veux trouver un chemin de crête ». Ce qu'avait fait Leonetti. Jean Leonetti, c'est un médecin. Quand même, il faut faire confiance à celles et ceux qui savent. Moi, je ne suis pas dans une position doctrinaire. Je n'ai jamais été un tenant de la vie à tout prix. Parce que j'ai des proches comme vous et je n'accepte pas la souffrance des proches comme vous. Et je ne vous parle pas de ma propre souffrance. Mais je dis, tant que la personne ne souffre pas et qu'on garde un échange, une possibilité de rêver et d'inventer un nouveau monde, alors donnons la possibilité au soir d'arriver et au lendemain d'arriver à nouveau. Et je vois cette même mélancolie autour de 5 problèmes que je voudrais lister rapidement et puis après on entrera en dialogue avec vous, si vous voulez bien. Le premier, c'est, en fait, oui, mélancolie, et c'est ce verset de Deutéronome, « Voici, je place devant toi la vie, la mort, tu choisiras la vie ». C'est ce verset que j'ai cité dans mon article dans le Figaro ce matin. Choisir la vie, c'est pas être pro-vie, ça fait tout de suite sectaire. Non, c'est juste refuser tout ce qui est mortifère. Or, la peur est mortifère, l'angoisse est mortifère. Tout ce que demande la Bible, fond, c'est simple. Vivez tout ce que vous avez à vivre, tout, mais dans la joie. Débrouillez-vous comme vous voulez, dans le fun. Et c'est une prof québécoise qui m'a appris ça. Alors, bon, et la Bible le dit, ok. Mais la Bible, elle le dit, vous lisez, vous ne faites pas vraiment attention, vous dites c'est formidable, mais c'est bien, c'est la Torah, la Bible. Mais quand une prof québécoise vous le dit, ça, c'est autre chose. Mes enfants étaient dans une école, et il y a une prof qui arrivait du Québec, elle est là. Et un jour, elle me dit... C'est étrange ça, ouais quoi. Vous dites à vos enfants le matin, travaille bien. Chez nous au Québec, on leur dit have fun. Je me suis dit, elle ne doit pas être tellement québécoise, celle-là pour parler en anglais, mais bon. En tout cas, ça m'a travaillé. Nous, on leur dit travaille bien, et eux, ils leur disent have fun. Donc moi, j'ai changé, et je dis à mes enfants, dorénavant, je leur disais travaillez dans le fun. Travaillez dans le fun. Tout ce qu'on fait, il faut le faire dans la joie. La joie. Et regardez comment aujourd'hui, on nous met dans une forme de mélancolie, triste sur tout. 5 points. Le premier, l'écologie. L'écologie, ça devrait être formidable. La joie du retour à la nature, comprendre la nature, aimer les arbres, protéger les forêts. Il y a tellement de choses à faire. On nous parle de quoi? La mélancolie de l'écologie punitive. On nous fait peur, ça va être la catastrophe, ça va être la fin du monde, ça va être terrible, il n'y aura plus un oiseau, il n'y aura plus un arbre, il n'y a plus d'abeilles. Oui, d'accord, il y a des problèmes. Mais est-ce qu'on est obligé de nous présenter l'écologie, qui est un combat qui est notre combat, tous, comme étant la punition du monde et la mélancolie absolue? C'est cuit. Ben, si c'est cuit, c'est fini, alors autant y aller. Le rapport aux animaux, le bien-être animal, on présente ça comme étant fini, c'est terrible, voilà, c'est... Juste voir les choses pour améliorer les choses, mais pas considérer qu'il n'y a plus rien à faire. La bioéthique, la fin de vie, je viens de vous en parler, mais la bioéthique, c'est-à-dire le rapport entre la science, l'humain, comment l'humain est déjà augmenté, on le gantait par les prothèses auditives, les lunettes, il y a plein de choses, les stents qu'on a pour améliorer notre circulation sanguine, enfin bref, tout ce qui peut nous améliorer, mais à quel point on va dépendre des machines, à quel point on va maintenant être appareillé, comme dans ma jeunesse, mon enfance même, le feuilleton, comment il s'appelait, l'homme qui valait 3 milliards, là, c'était le truc formidable. Est-ce qu'on est déjà là-dedans? Est-ce qu'on est dans le post-humanisme, transhumanisme? En fait, on a peur. Personne ne vous parle de ça en temps fun. Et je ne vous parle pas de l'intelligence artificielle, où personne ne vous dit que grâce à ça, on va améliorer, je sais pas, nos données de santé, plein de trucs. On nous dit, on est cuit. On nous explique le dernier livre de Luc Ferry, qui est formidable. Ça s'appelle IA, intelligence artificielle, de Luc Ferry. Il nous explique que, par exemple, Altman ou Musk nous expliquent qu'il y aura dorénavant des entreprises sans aucun humain. Ça pose quand même des questions. L'accueil des migrants, les étrangers. On nous parle d'accueil des migrants comme si c'était une catastrophe. C'est marqué dans la Bible, tu aimeras l'étranger. Ça doit nous travailler. On ne peut pas parler d'une question en étant tout de suite traumatisé et donc être dans la mélancolie. C'est fini. C'est le grand remplacement, on est dépassé, on est... Oh, faut se calmer. Les étrangers, il y en a qui vous expliquent que sans les étrangers, on ne pourrait pas avoir... On manquerait de tellement d'emplois. Il n'y a pas assez de personnes. Donc en fait, il faut juste retrouver... un chemin de crête qui s'appelle l'espérance et la joie. Et puis, les grandes questions de solidarité. On nous parle de solidarité, au lieu de nous parler du bonheur d'aider celles et ceux qui sont en état de faiblesse, on dépeint une société absolument égoïste dans laquelle on ne peut pas se reconnaître, vous et moi, puisqu'on essaie de faire l'effort d'entendre les autres et de reconnaître. Je ne suis pas cette société égoïste. Elle peut exister. Mais moi, plutôt que de me dire la société égoïste, j'aimerais me dire... Comment je vais faire pour recréer de la fraternité? C'est une question de point de vue. Je refuse la mélancolie, je prône l'espérance. Au fond, je cherche à faire société. Et puis, ce que je vous ai dit, et je vais conclure avec cela, enfin avant, bien sûr, d'engager ce débat avec vous, puis avec la salle, je conclue avec ça parce que je vous ai dit au départ que la pire des choses, c'est de ne pas être capable de se projeter plus loin que le soir ou plus loin que le matin. Mais la Bible, dans les psaumes, psaume 68, nous dit « Source de bénédiction sois-tu, Seigneur, jour après jour. » C'est quoi le bonheur? Si le malheur, c'est le matin ne pas savoir si on aura un soir, et le soir ne pas savoir si on aura un matin, le bonheur, source de bénédiction sois-tu, Seigneur, jour après jour. Le bonheur, c'est un jour complet. En fait, en un jour, on peut changer notre vie et on peut changer l'histoire du monde. Chacun et chacune peut changer sa vie en un jour et mieux en une heure, dit le Talmud. Le Talmud dit, il en est qui sont capables de transformer leur vie et le monde en une heure. Moi, je vous dis, en un instant. Puisqu'Andy Warhol a été même plus fort que le Talmud. Andy Warhol a dit, chacun aura son quart d'heure de célébrité. Pourquoi faire? C'est pas pour dire je suis célèbre. C'est dans ce quart d'heure de célébrité, faire quelque chose qui peut transformer le monde. Et moi, je crois que c'est ça, ne pas céder à la mélancolie. C'est dire, je peux toujours transformer ma vie et je peux toujours transformer donc les données du monde. Maintenant, on va essayer de définir ensemble comment transformer ces données du monde.
Toujours le 14 mai 2025, dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Bayonne, Haïm Korsia, grand rabbin de France et membre de l'Institut Académie des Sciences Morales et Politiques, a répondu aux interpellations d'Eliane Markovitch, magistrat honoraire. En voici quelques extraits.
Monsieur Korsia, cher Haïm, vous nous donnez aujourd'hui, on l'a vu, votre regard aiguisé d'académicien. Mais vous êtes également le grand rabbin de France. Alors la France, justement, parlons-en. C'est notre maison commune, c'est une république démocratique fondée sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et sur la Constitution de 1958. Les quatre piliers de notre république sont les libertés, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Ces principes sacrés qui nous tiennent debout ensemble sont violemment attaqués. Cela se manifeste notamment par une montée en puissance d'actes antisémites, surtout depuis le 7 octobre 2023, mais aussi d'actes anti-musulmans et d'actes anti-chrétiens. Alors que nous paimons par déni de réalité, ou par paresse intellectuelle, ou par manque d'espérance, à nommer clairement les causes de cette violence et les solutions à y apporter, Nous observons jour après jour que la République semble vaciller et perdre de son autorité. Nous voyons que la violence existe désormais par elle-même et pour elle-même, et elle infuse par porosité dans toutes les couches de la société. Aussi, nous avons tous très envie de vous entendre, d'entendre votre constat lucide, comme vous devez le faire déjà en grande partie, et la vision de l'académicien et du citoyen engagé que vous êtes, au sujet des défis à relever entre quatre grands principes républicains évoqués. Alors, on parlerait bien entendu liberté, égalité, fraternité, laïcité. Si vous voulez bien, nous commencerons par la liberté. Il est bon de rappeler que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien sûr, dès son premier article, les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et l'article 4 de cette déclaration nous précise que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais sommes-nous si libres que cela? Vous avez évoqué à l'instant même la nourriture, l'abattage rituel. Est-ce qu'on peut manger comme on le souhaite, comme on le veut dans cette société? Est-ce qu'on peut s'habiller comme on veut également dans cette société? Je veux bien entendu parler du voile, d'événements religieux dans les espaces et les lieux publics. Voilà le premier défi.
Non, c'est une grande question. D'ailleurs, c'est amusant. C'est intéressant, vous dites, l'académicien a longtemps un grand bain. Au fond, comme l'aurait dit le grand philosophe Séchant, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Je ne sais pas si je suis plus académicien que grand rabbin qu'académicien. Je suis tout ce que je suis à la fois, et je suis attaché profondément, viscéralement, à la République et à ce qu'est la France. Parce que oui, vous avez raison, en 89, mais pas complètement. Parce qu'en 1789, il a fallu attendre 2 ans, il a fallu attendre le 27 septembre 1791, pour que les Juifs soient reconnus comme des citoyens. Donc, il a fallu du temps. Tout le monde, chacun naît libre. Les hommes et les femmes naissent libres et égaux. Enfin, les Juifs, 2 ans après. Mais ça me va. 2 ans d'attente, ça me va bien. C'est vrai qu'on a eu un président par le passé qui ne voulait pas attendre 2 ans pour son boulot dans 2 ans. Mais 2 ans d'attente, plus que les autres. La liberté, c'est formidable. Mais il y a un moment, une limite. Il y a toujours une limite dans la liberté. C'est quand ça atteint la liberté des autres. Et je suis libre de tout faire, mais pour vous répondre, parce que je pourrais vous expliquer pendant 2 heures le truc, et je ne saurais pas le dire, parce que c'est compliqué de définir une limite. Je vais vous donner une illustration, donnée par un Talmud, comme ça c'est simple, et vous verrez, chère madame, vous qui avez exercé ce métier formidable de magistrate, qu'au fond, dans le Talmud, parfois, il y a beaucoup de sagesse. Le Talmud raconte qu'il y a des gens sur un bateau, et il y en a un qui commence à faire un trou sous son siège. Alors les autres l'arrêtent. J'ai fou quoi, me dit c'est ma place, j'ai payé ma place, je fais ce que je veux, c'est ma place, je suis libre de faire ce que je veux. Mais ils lui disent, mais si tu fais un trou sous ta place, espèce d'idiot que tu es, tout le bateau va couler. Donc là, on comprend bien la limite de la liberté du bonhomme. C'est que si lui, il a la liberté de faire cela, il ne peut pas engager les autres. Vous avez souri pour certains, je l'ai entendu. Maintenant, malheureusement, je ne vais pas vous faire sourire du tout. J'ai malheureusement accompagné les familles des victimes de l'accident de la Germanwings. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet accident aérien atroce qui a changé la façon de concevoir les cockpits de tous les avions partout dans le monde? C'est qu'il y avait un pilote qui a voulu se suicider et il s'est donc suicidé, mais il a tué avec lui tous les passagers de l'avion. Donc lui, sa liberté de mourir, elle était réelle, il est libre. Mais il a entraîné dans sa mort des gens qu'il n'avait pas demandé à mourir. Donc jusqu'où est la liberté de chacun, jusque-là? Quand par vos choix, vous imposez d'autres choix aux autres. Et au fond, le Talmud le dit dans des commentaires merveilleux, en revenant sur le chapitre 19 du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire... Tu ne feras pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. N'impose pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on t'impose. Je veux choisir librement, je dois donc laisser les autres choisir librement. Et si par mon choix, je les prive de la liberté complète de choix, alors je m'arrête là. Donc vous voyez, la liberté, ce n'est pas un absolu. Et pardon, je me méfie toujours des absolus. C'est le débat très connu, mais tellement fort, qu'on vit tous les jours dans la société. C'est le débat entre Kant et Spinoza. Kant explique qu'il y a l'absolu, tu ne mentiras point. Tu ne mentiras pas. C'est-à-dire, pour schématiser, La Gestapo tape à ta porte et te demande « Est-ce que tu caches un juif chez toi ?» Tu ne mentiras pas, tu peux dire « Oui, il est en dessous de la troisième étagère qu'on pousse, vous appuyez sur le coin, il est là. Voilà. » Ça, c'est Kant. Kant dit « On ne peut pas mentir. » Et Spinoza lui répond « Oui, mais il y a quand même la nécessité. Tu ne peux pas mentir, mais tu n'es pas obligé de tout dire. » Ça va très loin. Le Talmud a le même débat. Avant Kant et avant Spinoza. Et il dit « On peut des fois ne pas tout dire. » Ah ouais, quand ? Comment tu le sais ? Tel rabbin dit ça. Comment il le sait, lui ? Parce que tel rabbin dit ça. Et comment il le sait ? Parce que tel maître a dit ça. Et comment il le sait ? Dieu a fait ça. Dieu a menti ? Oui. Écoutez, c'est merveilleux. Vous vous rappelez, dans la Genèse, lorsque les trois anges arrivent et annoncent à Abraham et Sarah, premier ange, Abraham, tu vas guérir. Formidable. Deuxième ange, Dieu va détruire Sodome et Gomorre. Terrible. Troisième ange, tu vas avoir un enfant. Abraham a 99 ans, Sarah a 89 ans, et Sarah, elle entend que les anges disent à Abraham, dans un an, tu auras un enfant. Et là, va titrak Sarah Bekirba les morts. Sarah rit en son cœur en se disant, mais ils se foutent de moi, ceux-là. À mon âge, je vais avoir un enfant. Et en plus, à l'âge d'Abraham, bon. Dieu s'énerve, la suite immédiate. Et dit à Abraham, comment Abraham, Sarah rit en disant, à mon âge, vais-je avoir un enfant? Dieu n'a pas tout dit. Il n'a pas dit à Abraham que Sarah avait pensé, et à l'âge de mon mari, il n'est pas prêt de me faire un enfant celui-là. Parce que ça aurait fait de la peine à Abraham de savoir que Sarah, elle pense ça. Et donc, il ne lui a pas dit, même Dieu a été spinozien, si j'ose dire, dans l'idée que, oui, il ne faut pas mentir, mais on n'est pas obligé de tout dire, on n'est pas obligé de faire de la peine aux gens. Donc en fait, je me méfie de l'absolu. Et autant je me bats pour la liberté des autres, mais je conçois que ma liberté à moi, elle doit avoir une limite. Parce qu'une société où il n'y a pas de limite à tous nos désirs est une société dangereuse.
Deuxième défi, l'égalité. L'égalité aux femmes. Après des siècles d'annonces, les femmes retenues en principe les mêmes droits que les hommes. Pourtant, un mouvement qui s'est répandu dans le monde entier, et il s'agit de MeToo, a mis en lumière l'exigence des femmes du respect de leur corps et de leur consentement dans une société jugée par certaines trop patriarcale. Qu'en pensez-vous? La femme est-elle vraiment devenue l'égale de l'homme? Serions-nous passés d'une extrême à l'autre? Où se trouve le juste milieu? Et finalement, les religions ne sont-elles pas un peu en retard dans ce combat pour l'égalité aux femmes?
Bon, pardon de vous dire ça. D'abord, c'est aux femmes de définir. Est-ce que les combats sont menés ou pas? C'est pas à moi qui suis un homme. Enfin, quoi que nos jours, ça veut rien dire que je suis une barbe, ce que vous voulez, mais globalement, en tout cas, je suis un homme. Et il faut laisser cette parole aux femmes. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas fait pendant des siècles. Les combats ne sont pas finis de mon point de vue, parce que par exemple en termes d'égalité salariale, on vous dit, ben, formidable, les femmes, il n'y a que 15% d'écart entre les salaires des hommes et des femmes. Pourquoi 15%? La seule norme, c'est 0%, qui est une identité absolue, comme l'État le fait. Je me rappelle quand j'étais dans les armées, pour l'État, que vous soyez, je vois, un militaire, dans l'armée, c'était formidable. On ne connaît pas le sexe des soldats. On n'a pas une majoration pour un garçon ou une minoration pour une fille. C'est un grade, tu as une ancienneté, il y a des primes diverses et multiples, mais le salaire, la solde, c'est la même chose. Et l'État peut donner des leçons à beaucoup dans la société en ce domaine. Après, est-ce que l'équilibre est juste? Encore une fois, c'est pas moi de vous le dire. Quant aux religions, pardon, on avait un peu d'avance. Oui, un peu d'avance. Et je dis en tout cas, dans la Bible, auxquelles des grandes religions monothéistes font référence, on protège le droit absolu, par exemple, pour les femmes, de décider si elles veulent se marier ou pas. Personne ne peut imposer un mariage à une femme, ce qui est quand même très en avance, surtout par rapport à certains pays. Il y a un débat incroyable lorsque les filles de Tselophrate, c'est à la fin du livre des Nombres, elles sont cinq, elles n'ont pas de frères, et elles disent pourquoi on n'hériterait pas. Alors Moïse demande à Dieu, et Dieu lui dit, mais elles ont raison de demander. Ce verset, il est magnifique. Quelle bénote Tselophrate devrait... Oui, les filles de Tselophrate ont raison de demander. Elles ont raison de parler. Elles ont raison de se révolter devant une situation inadmissible. Et Moïse dit, bah oui, les filles héritent comme les garçons. C'est tout. Ça a juste 3000 ans d'avance, mais vous n'en faites pas. Je ne demande pas de copyright sur quoi que ce soit. Et donc, l'égalité, en France, on s'est battu pour l'égalité. Mais égalité des droits, égalité des devoirs. En France, on traduit des fois un peu mal, pardon de vous le dire. On traduit par égalitarisme. Moi, je maintiens qu'il est parfois des inégalités qui sont justes. C'est pas moi qui le dis. C'est Rétif de la Bretonne qui disait Oui, c'est pour faire plaisir à celle qui voulait que je vienne en tant qu'académicien. Rétif de la Bretonne, oui. Elle est en train de chercher sur Internet qui est ce brave homme. Dès que je dis ça, je vois toujours les gens chercher Rétif de la Bretonne. Quelle époque, qu'est-ce qu'il raconte, c'est celui-là. Je connaissais Jean Vion, Siné Hegel, Parizeau, mais je ne connaissais pas tous les remplaçants aussi, hein, je ne peux pas savoir. Oui, parce que non, je viens de donner un peu de la composition de l'équipe de Saint-Étienne, parce que chaque fois que je passe un 12 mai, hein, il y a deux jours, je repense à la finale Saint-Étienne Bayern de Munich de 1976. Les fameux buts carrés. Donc voilà, ça m'énerve toujours un peu. Voilà. Bref, Rétif de la Bretonne dit, écoutez bien comme c'est tellement fort aujourd'hui, le travail produit des inégalités justes. Prenez deux élèves, même données cognitives, même capacité d'apprentissage. Un bosseur, un fumiste. La cigale et la fourmi. Okay, l'un bosse comme un malade. Il a 19 sur 20, il a les machins, il est pris. L'autre n'en fout pas une, il arrive, il a 3 sur 20. C'est inégal, c'est une inégalité, mais elle est juste. Donc en fait, nous, on s'est arc-bouté parfois sur la notion d'égalitarisme, au point qu'on a dit, bon, on va arrêter de noter les élèves, parce que ça fait de la peine à ceux qui ont des mauvaises notes. Mais c'est une réalité, hein, je fantasme pas, je sais pas si c'est des gens ici de l'éducation nationale, c'est un mouvement qui consiste à dire, attends, tu lui mets un D, c'est vexant, par rapport à ses copains qui ont le A, donc... oui, le travail produit des inégalités justes. Et c'est toute la méritocratie républicaine qui est là. Un président, un de nos présidents, qui est complètement oublié, on veut l'oublier, c'est dommage parce que c'était un grand président, parce qu'il venait de... Il venait pas d'un milieu aisé, milieu difficile, je pense à Albert Lebrun, malheureux. Il a été élu en 32, réélu en 39, c'est vraiment pas de chance. Et donc, il était écrasé par l'histoire. Mais Albert Lebrun, il vient de rien, il est polytechnicien, par son travail, ses études, repérées par des, comme ça se faisait à l'époque, par des maîtres d'école qui avaient la foi et qui lui dit « Mon petit, il faut que tu continues des études. » Et il l'emmène jusqu'à Polytechnique, jusqu'à la présidence de la République. Il n'y a que la méritocratie républicaine qui offre ça. Mais si on s'enfonce dans l'égalitarisme, bon, il n'y a pas de raison, tout le monde doit être polytechnicien. Eh bien, il n'y a plus de Polytechnique. Quand on dit, si on dit par exemple, et c'était un des enjeux, regardez, il faut toujours trouver un équilibre, là vous avez raison, il faut trouver un équilibre. Regardez par exemple Sciences Po, on a dit c'est inadmissible, Sciences Po c'est une école élitiste. Ok, Richard Descoings, qui était directeur de l'école, iconique, dit il faut ouvrir l'école. Il a raison, il a raison. Il y avait une sorte de reproduction sociale qui était un peu, quand même, sclérosante. Il ouvre, mais il ouvre, et puis à un moment on ne contrôle plus, regardez ce qui s'est passé à Sciences Po. Il a fallu qu'un nouveau directeur général, maintenant, qui s'appelle Louis Vassy, qui est formidable, remettre des règles, c'est-à-dire on va donner des bonnes notes aux bons élèves, on va foutre dehors ce qui empêche les autres de travailler et on va remettre du principe de hiérarchie dans l'apprentissage. Autrement dit, l'égalité, c'est bien, mais la méritocratie, les efforts doivent être distingués et récompensés.
Alors, on va aborder le troisième défi, la laïcité. Le principe constitutionnel de laïcité garantit la liberté de conscience, l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance, la neutralité de l'État à l'égard des religions et le libre exercice des cultes. Aujourd'hui en France, aucune religion n'échappe à la transgression, plus ou moins violente, du principe de laïcité. Mais les statistiques le prouvent depuis 7 octobre. octobre 2023, les citoyens de confession juive sont plus particulièrement frappés par l'antisémitisme. Le Sénat a présenté un projet de loi sur un délit autonome d'antisémitisme indépendant des autres discriminations, et le ministère de la lutte contre la discrimination préconise la création d'un institut de formation et de recherche sur le racisme et l'antisémitisme. Et vous, comment envisagez-vous d'éventuels volets préventifs et répressifs pour relever l'immense défi de la lutte contre l'antisémitisme? Comment faire de la laïcité une valeur vraiment cardinale? Et enfin, malgré le principe de la séparation des Églises et d'État depuis la loi de 1905, pensez-vous que les Églises ont un rôle à jouer de concert avec l'État pour le respect de la laïcité?
Bon, avant de dire ça, mais là, il y avait deux questions en réalité. La première question, vous dites le problème de la laïcité. Pardon, la laïcité n'est jamais un problème, c'est la solution. La laïcité, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est ce qui nous permet d'échanger avec des dignitaires catholiques, protestants, musulmans, en équité. On ne voit pas quel poids tu pèses dans la société. Tu apportes ta pierre, le spirituel, à la société, formidable, on peut tous échanger ensemble, grâce à la laïcité. S'il n'y avait pas de laïcité, croyez-moi, les uns les autres, on ne se parlerait pas. On serait enfermés dans nos communautés, et on serait une société anglo-saxonne, on ne serait pas la France. Nous sommes la France parce que nous sommes dans la laïcité, ce n'est pas l'athéisme, ne confondons pas, c'est la liberté de pratique religieuse. Liberté de pratique religieuse. À ma place, demain, le maire pourrait inviter un évêque, après-demain un imam, après-demain un pasteur, et le surlendemain un grand maître franc-maçon. Et c'est la possibilité d'échanger tous ensemble, de partager et de construire une société. C'est la laïcité qui nous permet ça. Alors, la question que vous posez après sur le racisme et l'antisémitisme en particulier, on peut être très laïque, respecter la laïcité et très antisémite. Ce n'est pas la laïcité qui est un frein à l'antisémitisme. Comme, par exemple, on croyait que la culture serait un frein à l'antisémitisme. Au pays des Gonchi, de Rilke, des grands poètes allemands, ça n'a pas marché terrible. Donc, moi je pense que il faut d'abord la fermeté et l'expression claire de la volonté de l'État à travers, pardon de vous le dire madame, à travers votre corps d'origine, si j'ose dire. Et on a demandé avec le président du consistoire, qui permettrait de Korchak, un avocat qui connaît ce monde. On est allé plusieurs fois voir le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, le président, le premier ministre, pour leur dire, on ne peut pas avoir, il y a la liberté des magistrats, quoi. Mais si vous avez des peines qui ne disent pas que c'est grave, et qui auraient même une sorte de compréhension, on comprend. Oui. Mais là, enfin, quand on a demandé le suivi des peines. Le suivi des peines, c'est une façon de dire. Alors, le magistrat, dans le huis clos de son petit bureau, ne peut pas décider tout seul le quantum d'une peine, où c'est pas très grave, après tout, avec 3 mois de sursis, on n'en parle plus. C'est pas comme ça. Donc, quand le rabbin d'Orléans, par exemple, a été agressé violemment devant son fils de 9 ans, et dans une situation assez extraordinaire, où des passants s'interposent, formidable, de solidarité, et que l'agresseur prend 16 mois ferme, je dis bravo. C'est clair, on comprend. C'est pas bien, on veut pas. Collectivement, on veut pas. C'est pas la même musique que le bonhomme de 63 ans. C'est pas vieux. Je vais pas vous dire, moi, que 63 ans, c'est vieux. C'est sûrement pas vieux. C'est très jeune, monsieur le maire. Le maire est d'accord avec moi. Quand même. Enfin, 63 ans, il a quand même sa carrière derrière lui, ce brave homme. Employé, fonctionnaire territorial du département des Yvelines, arrêté en flagrant délit, en train de griffer des croix gammées dans le RER. Donc, bonhomme, 6 mois avec sursis. Ça veut dire quoi, 6 mois avec sursis? Je m'en fous. Moi, je veux pas qu'il aille en prison. Moi, je lui aurais mis 6 mois à nettoyer tous les graffitis des RER. Il y avait un cas incroyable. 5 gamins sont chopés en flagrant délit de casser 268 tombes à Sarre-Union en Alsace. Et on débat quoi faire, quoi leur faire. J'entends même un rabbin éminent dire à la radio, c'est grave compte tenu du nombre des tombes. Je l'appelle. Je lui dis, écoute, formidable ton interview sur Europe 1, formidable. Il était content. Il faut se méfier avec moi quand je commence comme ça. Et je lui dis, mais juste une chose, à combien de tombes c'est pas grave? Non, parce que tu as dit, c'est grave compte tenu du nombre de tombes. Donc 268, tu as raison, c'est beaucoup. Ça. Mais 100, ça va pas. 100, ça va, 100 tombes, ça va. Non, tu veux pas. 50. Alors il comprend que je vais m'énerver dans pas longtemps. Je lui dis, bah 10 tombes. Et il me dit, non, tu as raison, même une seule tombe. Ah bah voilà. Même une seule tombe, c'est inadmissible. Bon, alors vous allez me dire, bon, c'est clair, non? Ils ont été arrêtés en flagrant délit. Les tombes. Qu'a fait la justice? Eh bien, je vais vous dire, madame, débat homérique entre eux. N'oubliez pas, en Alsace, je vous ai dit, sa réunion. L'assurance de la municipalité, l'assurance des parents, l'assurance de la préfecture, parce qu'un cimetière juif en Alsace, il est aux communautés qui sont, par le concordat d'État, bagarre entre toutes les assurances. 5 ans après, il n'était pas jugé. Moi, ou je suis peut-être un peu vieux jeu, je t'aurais pris les 5 marmots, là, je te les colle tout l'été avec des maçons à refaire les tombes toutes. Ah, ils auraient pété en vacances, ça c'est sûr. Mais ils auraient réparé les tombes eux-mêmes. Alors évidemment, les magistrats disent, ça, on n'a pas ça, c'est pas prévu. Mais ils auraient mieux compris. Plutôt que de se dire, les assurances se bagarrent, mais nous, on n'a rien. Alors oui, oui, à la fin, on s'est énervé, on a fait, on a refait, puis on a dit, on verra après avec les assurances. Mais le principe de la sanction qui dit que la société, parce que depuis Adolphe Crémieux, ministre de la Justice, du gouvernement de défense nationale, la justice est rendue au nom du peuple français. Donc cette décision pour le gars avec ses 6 mois avec sursis, bah, elle est rendue en votre nom et en mon nom. Mais moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense qu'il faut que la peine elle dise que la société ne veut pas quelque chose. Donc en fait, si on donne des peines qui donnent le sentiment que bon, ouais, ça va, pas terrible, ça va, on comprend, eh bien on envoie un message très compréhensible par beaucoup. En revanche, quand on fait 16 mois ferme, quand le gars qui a, là, encore récemment, tabassé, il n'y a pas d'autre mot, un monsieur de 70 ans, là, on peut dire que c'est un peu plus vieux, parce que j'ai moins que, beaucoup moins que ça, donc là, on peut dire, c'est pas grave, mais ceux qui ont 70 ans, je compatis, c'est pas si vieux que ça, mais enfin, quand même, quand vous êtes un robuste bonhomme, complètement bourré, et que vous tabassez un bonhomme à terre, c'est pas vraiment le plus grand décourage, prison ferme à l'audience, eh ben bravo. Donc en fait, je me dis, la lutte contre l'antisémitisme, c'est d'abord un message clair envoyé à la société, on n'accepte pas. Et ensuite, dans un deuxième temps, après la fermeté, l'éducation. L'éducation, c'est la rencontre. Juste avant, ce matin, j'ai échangé avec les élèves du lycée Cassin, dont un qui avait été puni et condamné à venir écouter ma conférence. C'est vous dire la purge que ça devait être. Toi, tu seras puni, tu écouteras la conférence du grand rabbin. Je ne sais pas ce que vous avez fait tout ça, mais ça devait être chaud. Donc, pourquoi ? Il a eu des... J'ai trouvé que c'était formidable. J'étais de Paris. On a passé un bon petit moment ensemble. Et il avait eu des phrases antisémites sans se rendre compte du mal que ça faisait. Et donc, on a dit, bah, tu vas écouter un peu ce que va dire le grand-mère. Je suis allé lui parler avant. En fait, il n'a jamais vu de juif de sa vie. Il n'a jamais échangé avec un copain juif. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est la méconnaissance. Et il faut qu'on ait conscience de ça. L'éducation peut venir qu'après la manifestation de la fermeté de la société. Mais il faut qu'il y ait un volet éducatif, évidemment. Et pour répondre très précisément à votre question qui était très juste, en fait, l'antisémitisme a muté. C'est toujours la même violence, mais il a muté. Il faut donc qu'on soit capable de muter dans notre façon de lutter contre l'antisémitisme.
Ça fait du bien entendre ça. Alors, quatrième défi, qui sous-tend les trois que vous venez de traiter, celui de la fraternité. Que serait la liberté, l'égalité et même la laïcité si elle n'était pas irriguée par la fraternité qui devrait relier solidairement et éthiquement tous les citoyens d'une même république? On voit ce qu'il en est. Alors, M. Forcien, comment faire pour que la prophétie de feu Gérard Collomb, qui redoutait que les hommes ne vivent plus côte à côte, mais face à face, ne se réalise pas? Pouvons-nous encore espérer d'une république en fraternité?
Alors, madame, vraiment, vous avez posé une question tellement incroyable qu'il y a même la réponse dedans. Je partage tout ce que vous dites, et notamment, mais je vais faire une petite pirouette à la fin, vous en faites pas. Parce que j'ai toujours considéré que dans le triptyque républicain, les gens se battaient pour la liberté, se battaient pour l'égalité, c'est-à-dire se battaient pour leur liberté, pour leur égalité, c'est-à-dire plus égale que celle de tous les autres. Et la fraternité, ouf. Et vous savez quand on a perçu ça collectivement en France, le 11 janvier 2015, quand brusquement on a manifesté dans les rues et qu'on a senti ce souffle de fraternité. Je l'ai rarement perçu de manière aussi évidente que ce jour-là. Et j'ai compris que, en fait, on vivait dans une France que j'appelle réduite aux acquis. Qu'est-ce que je peux acquérir pour moi? La liberté, l'égalité. Fraternité, tout bon. Mais non, c'est le ciment qui relie les deux. C'est la clé de voûte de toute la République. La fraternité, c'est ce qui fait que je veux être frère avec l'autre. C'est pas juste il est mon frère. Je veux être frère, c'est ma sœur, c'est ma proche, c'est mon proche. Il est lointain, j'en fais un proche. Le principe de fraternité, il est consubstantiel à tout ce qu'est la République. Vous pouvez construire la société que vous voulez. Si les uns et les autres se jugent au-dessus des autres, N'importe qui. Ça ne marche pas. Parce qu'on va asservir tous les autres à nos désirs, à nos besoins. Et je crois que quand vous citez Gérard Collomb, qui a eu raison de dire ça, malheureusement, il a dit le jour de son départ. C'est étrange, parce qu'on aurait pu attendre qu'il le mette en pratique tout au long de son engagement de ministre. Ça a été un très très grand maire de Lyon, un bon ministre. Mais je dis ça, je suis né à Lyon, donc ça, je comprends bien ces questions. Mais il avait quelque chose de quasi prophétique le jour de son départ. J'ai peur qu'il arrive face à face. C'est que si on crée une société auto-centrée sur nos petits malheurs, nos petits soucis, alors on est cuit, on est fini, on est revenu dans cette mélancolie dont je parlais. Parce qu'à s'apitoyer sur nos sorts, nos problèmes, on n'en sortira pas. En revanche, quand on voit les autres et qu'on se dit, mais je vais m'occuper un peu des autres, je vais voir. Moi, je suis bluffé par exemple par la somme de dévouement des bénévoles, les bénévoles du Secours Populaire. C'est pas religieux le Secours Populaire, du Secours Catholique, des apprentis d'Auteuil, de l'Oser, l'œuvre de secours à l'enfance, toutes les religions, à religieux, mais ces bénévoles qui. Les Restos du Cœur, ces bénévoles, hommes et femmes, âgés, jeunes, qui disent on ne peut pas laisser les gens dans cette solitude. Le cœur qui m'intéresse, c'est le leur. Voilà ce qu'est l'intelligence de la fraternité. Et si vous vous enfermez dans je veux qu'on s'occupe de moi, je veux que tous les autres soient plus fraternels envers moi, il n'y en aura jamais assez. Vous serez toujours, malheureusement, moi j'en connais, y compris des dirigeants, des gens communautaires, qui disent tout personne de même, c'est Calimero Hanland, personne de même, tout le monde ne fait que du mal, on ne veut pas m'aider. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Donc en fait, je vais conclure avec une petite histoire, c'est l'histoire que j'aime beaucoup, d'un bonhomme qui arrive devant le mur à Jérusalem et qui dit: mon Dieu, Dieu de mes pères Abraham, Isaac, Jacob, j'ai investi 500 millions d'euros. Dans le CAC 40, il faut que tu fasses monter toutes les actions dans lesquelles j'ai investi. J'ai investi 2 milliards de dollars dans le Nasdaq, et il faut que tu fasses monter le Nasdaq et le Dow Jones entier. Il y a investi, il donne toutes ses lignes de crédit dans le Nikkei, le DAX, tout ce que vous voulez. Il investit dans l'or. Bref, il y a du. Voilà, il faut que tu m'aides dans les actions. À côté de lui, il y a un pauvre gars qui arrive malheureux, qui se met à prier, à pleurer. Mon Dieu, Dieu de mes pères, Abraham, Isaac, Jacob, j'ai étudié ta sainte Torah toute la matinée. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes 10 enfants? Mon Dieu, aide-moi. L'autre s'énerve, il lui tape sur l'épaule, il lui dit: écoute-moi bien, toi. Tiens, voilà, prends son portefeuille, il lui donne 200 dollars, il lui dit: écoute, sois gentil, va t'acheter à manger, toi et toute ta famille, tous tes enfants, et laisse le bon Dieu se concentrer sur moi. Et bien, moi, je pense que la fraternité dans la République, c'est ça. Cet homme-là me paraît beaucoup plus profond que beaucoup de grands philosophes, parce qu'il se dit, lui, avec son intelligence basique, de quel droit je demande à Dieu de faire des choses pour moi, alors que moi, ces choses, je ne les ai pas faites pour les autres. Et la fraternité, c'est ça. Avant de se demander pourquoi les autres ne sont pas fraternels envers moi, qu'est-ce que toi, tu as fait pour les autres, pour que tu sois en droit de demander que les autres, que la société, la collectivité, fassent des choses pour toi. Donc en fait, la fraternité, vous avez mille fois raison, madame. C'est comment je me trouve face à moi. Le monde que je crée pour les autres, c'est celui dans lequel moi, je vais vivre. Donc si je crée un monde de l'enfermement et du refus, hein, un monde de la cigale et la fourmi, eh ben, quand la bise fut venue, je me retrouverai forcément très seul. En revanche, si je crée un monde du respect de l'altérité, de la fraternité, de la co-responsabilité, alors quand je serai un moment faible, en état de faiblesse, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de moi. Voilà la société dont je rêve.
Vous venez de suivre quelques extraits du dialogue entre Haïm Korsia, grand rabbin de France, membre de l'Institut Académie des sciences morales et politiques, et Eliane Markovitch, magistrate honoraire, enregistrement réalisé le 14 mai 2025 dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Bayonne.